Jacqueline, on va vous inviter à nous rejoindre
à la table, peut-être, pour en parler un peu plus. Donc, évidemment, Jacqueline en sait plus que nous sur Emma Goldman et pourrait nous raconter plein de choses sur sa vie. Mais la première chose peut-être qui nous intéresse, c'est que vous nous parliez de là où vous avez procédé, c'est-à-dire du travail de traduction, puisqu'il y avait une version antérieure de ce livre qui avait été publié dans les années 70. Voilà, donc on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a amené à traduire Emma Goldman et combien de temps ça vous a pris et avec qui.
Et tout le reste. Bon, oui, il y avait une première édition en 79. Le gros problème, c'est que les deux traductrices ont cru bon de, ou peut-être c'est l'éditeur qui l'a fait, on ne sait pas vraiment, d'expurger très sensiblement cette première édition. Donc il y a au moins un quart du livre qui est parti à la poubelle. Et d'après la postface écrite par les deux traductrices, le raisonnement était multiple, mais la principale raison semblait être, ce qui m'a toujours étonné, qu'en 79, elles estimaient que les Français ne s'intéressaient pas aux luttes aux États-Unis. Donc tout ce qui était aux États-Unis a été très sensible. Elles n'ont pas coupé le livre, mais elles ont beaucoup enlevé le passage. Et d'autre part, c'était deux féministes, et ce qui les intéressait chez Emma Goldman, c'était son féminisme, ce qui est évidemment une réalité, mais c'est loin de résumer ce qu'était cette personne. Donc voilà pour la première édition, c'était très facile d'estimer que c'était tout à fait insuffisante. Moi, j'ai fait l'expérience pendant le temps qu'on a traduit, tout le monde disait « mais non, pourquoi vous faites ça, c'est déjà traduit ?» Je leur ai expliqué que non, en fait, ils ne connaissaient pas Emma Goldman. Et c'est vrai. Bon, en fait, la proposition de traduire ce livre, le livre en intégralité, pour la première fois, a été proposée par la maison d'édition L'Échappée, qui maintenant a un peu, peut-être 25 ans, cette petite maison d'édition. Et dès le début, donc il y a une vingtaine d'années, ils avaient eu envie de publier ce livre. Donc, on a été très, très soutenus pendant tout le processus. On a mis 4 ans, c'est-à-dire, ce n'était pas un rythme d'esclavagisme, c'est moins qu'on puisse dire. La première édition chez L'Échappée, c'est donc...
3 kilos.
C'est un très beau livre. Franchement, c'est d'une très belle qualité, avec des photos. Bon, bref, on a été gâtés. Moi, en fait, je ne connaissais pas spécialement Emma Goldman. Quand j'étais toute jeune, je crois 17 ans, comme ça, j'ai trouvé dans une brocante le volume 2. C'était un 2 volumes en anglais. Donc, j'ai toujours connu Emma Goldman en Russie, en gros. Et j'ai pu découvrir ce qu'elle avait fait avant. Pour nous, il y avait quand même pas mal de difficultés de la traduction, on va dire, parce que elle a écrit ce livre bien après. C'était publié la première fois en 1931. Entre-temps, il y avait eu différentes descentes de la police. Avant chaque arrestation, il y avait eu son expulsion en Russie. Il y avait la fuite à travers l'Europe quand ils sont partis tous les deux, Bergman et elle. En fait, c'était après un moment très important en Russie, qui était l'écrasement de la révolte de Kronstadt. Donc ça a été la goutte finale qui a fait qu'ils ont dit « on n'a plus rien à faire ici ». Et donc ils ont vagabondé à travers l'Europe au gré des visas qu'ils ont pu avoir. Et là aussi, elle a encore perdu des choses. Donc en gros, pour écrire ce livre, elle comptait sur ses souvenirs. Et elle a écrit à peut-être des milliers d'amis, de contacts, etc. pour demander qui lui prête ses correspondances à elle et tous les autres documents qu'il pouvait avoir éventuellement. Il y a eu pas mal d'erreurs, des erreurs mineures qu'on a corrigées sans rien marquer, des erreurs majeures, très peu, mais quand même, qu'on a corrigées par des notes. Et je vais juste citer un exemple que j'aime beaucoup. Elle raconte que sur le bateau, d'abord, elle s'est trompée de nom du bateau, parce que sur Internet, on trouve maintenant tout. Et j'ai pu savoir qu'elle n'est pas arrivée aux États-Unis sur l'Elbe, mais sur un bateau qui s'appelait le Geller, je crois. Elles arrivent dans le port de New York. Ah, merveille, la statue de la liberté avec sa torche. Sauf que la statue de la liberté a été installée sur son socle à peu près un an après. Donc, c'est sûr qu'elle l'avait vue, mais pas à ce moment-là. Et il y a d'autres petites choses comme ça, mais ça, j'ai découvert vraiment fortuitement parce qu'on a été amené à faire beaucoup, beaucoup de recherches historiques. Déjà pour comprendre, comme vous avez vu dans les lectures, il y a quand même, moi je connais relativement bien l'histoire de l'anarchisme, les différents courants, etc. Mais ce n'était pas toujours évident de comprendre quand elle parlait de ce qu'on peut appeler l'anarchisme individualiste entre Ibsen et Kropotkin. Elle-même, elle se dit à la fois, je pense, anarchiste et individualiste. Elle donne beaucoup d'importance à l'éducation, par exemple. Et elle dit dans le livre qu'elle est communiste libertaire. C'est le mot. Donc, je crois qu'il y avait une sorte de tension dans ses idées qu'on voit très souvent, pas seulement ici, mais beaucoup dans ses autres écrits. Bon, il y avait d'autres problèmes qui étaient quand même plus délicats. Elle parle beaucoup de la race juive, la race noire, mais aussi la race espagnole et la race française, entre autres. On a décidé de conserver son expression, c'était ses idées, mais on a expliqué ce qui était le contexte de l'époque, quelles étaient les conceptions raciales à cette époque-là, sachant que c'était avant déjà l'Holocauste, avant la guerre, et c'était aussi avant les découvertes sur le séquençage génétique qui font qu'on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une race. C'est nous tous. Mais à l'époque, il n'y avait pas qu'Emma Goldman. Les anarchistes et les socialistes en général utilisaient des termes. Par exemple, elle donne, je crois que c'est carrément Johann Most qui parle des cafres, qui est un mot d'insulte pour les Noirs. Des choses comme ça qu'on a toujours laissées, mais qu'on a expliquées. Il y a une bataille que moi j'ai perdue personnellement. Je suis toujours un peu énervée. En anglais, tous les noms propres, les noms des religions, les noms des nationalités, tout ça, c'est en majuscule. La première lettre est en majuscule. En français, c'est plus compliqué. Mais on parle bien des catholiques, petit c, chrétiens, petit c, et juifs. Je considère que ça devrait être minuscule. Pourquoi ? Même si on dit, bon, c'est un peuple, etc., mais c'est un peuple, c'est pas une nation. Donc, j'ai exprimé mon point de vue, ma collègue n'était pas d'accord, et l'éditeur a tranché. Mais bon, il y avait plein d'autres discussions, débats, et c'est intéressant de travailler comme ça entre en tandem, parce qu'on a chacun en vient, chacun avec son bagage. J'ai beaucoup apprécié...
Quelle était la méthode?
On a eu différentes méthodes. En fait, Laure préférait commencer. De nouveau, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Mais il faut toujours rester à l'esprit qu'on n'a pas la science infuse et qu'il faut accepter des compromis. Donc c'est elle qui, en général, traduisait le premier jet. Et moi, je l'ai corrigé. Et ça faisait des allers-retours. Des fois, jusqu'à 3 ou 4 fois, des allers-retours. Pour arriver à quelque chose qui nous semblait bien. Et puis, il y avait bien sûr l'échappé qui assurait non seulement la correction, mais vraiment une révision. Ils ont été très méticuleux à ce sujet. Bon, juste pour revenir, parce que je parle un peu dans tous les sens, là. Même si Emma Goldman exprime une certaine attitude qu'on appelle paternaliste, quand elle raconte le portier noir dans le train ou ces prisonniers noirs qu'elle respectait beaucoup pour leur solidarité qui était formidable, mais quand même il y avait un petit côté paternaliste. Et le fait est qu'elle n'a pas dans ses multiples combats, il n'y a jamais eu un combat chez elle, d'ailleurs chez les anarchistes en général à cette époque, contre l'exploitation des noirs.
Elle les a reclus.
Oui, mais il n'était pas aux États-Unis.
Oui.
Ouais. Non, mais pardon, je parlais des oui, tu as raison, bien sûr. Mais par contre, elle a écrit une nouvelle déclaration d'indépendance. en 1901, je crois, ah, oui. comme ça, où elle dit, quel que soit le sexe, le genre, la race, mm-hmm. etc., tous les gens sont, devraient être égaux devant le banquet de la vie, ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, elle avait cette conviction, mais c'était pas, pour elle, ce n'était pas un champ de bataille pour elle. Ce n'était pas une bataille pour elle.
Je me demandais le moment où j'ai dit tout à l'heure où elle va au cours de Freud, elle est amoureuse de Nietzsche, enfin amoureuse de l'œuvre.
Admire, oui.
Et elle n'en dit pas plus.
Elle reparle de Freud quand il est venu aux États-Unis. Elle a été l'écouter et parler avec lui. Elle parle un peu plus du contenu, mais ce qu'elle a appris de Freud l'a beaucoup, beaucoup influencé, oui. Par rapport à ce que tu as. Pardon, vous avez dit. Il semblerait qu'elle ait eu des relations homosexuelles aussi. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est à cette époque-là, elle a fait beaucoup de conférences sur l'homosexualité.
Hein?
Elle a un extrait d'un discours qu'elle a fait. Et puis, ça parle surtout des gens qui sont venus la voir après à dire, mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on me comprend. Merci, merci, merci. C'est très émouvant, ouais. Et quand on pense que ça fait 100 ans, hein, c'est plus de 100 ans. Ouais,
c'est...
Oui, c'est ça.
Non, mais dans la série de Nietzsche et compagnie, enfin, moi, c'est... Pardon, je juste pose une question qui me tient à cœur depuis plusieurs mois, et qui, peut-être que ça corrobore tout ça, mais c'est-à-dire que, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est très, très échevelé, c'est vraiment très romanesque, il y a de quoi faire... 4 saisons d'une série, on rencontre le monde entier, il y a Nietzsche d'un côté, mais Jack London après, mais elle rencontre toutes les célébrités. La seule personne qu'elle ne rencontre pas, c'est Rosa Luxemburg, elle dit qu'elle regrette bien de ne pas l'avoir rencontrée. Et Wilde, elle finit par ne pas rencontrer, mais elle le sait. Et donc ça, ça a à voir avec l'histoire de la, pour moi, de la statue de la liberté. C'est-à-dire que c'est quand même une autobiographie, donc c'est quelqu'un qui raconte sa propre vie. Et je ne sais pas dans quelle relation vous étiez avec ça, parce qu'il y a des moments, elle construit son mythe, quoi. Enfin, il y a un truc très hagiographique aussi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, jusqu'à présent, il me manque encore quelques chapitres, j'entends un doute, une remise en question. Elle se markete beaucoup, je trouve.
Ah, c'est marrant, j'ai pas... Elle a été accusée de faire ça.
Ah.
Moi, je n'ai jamais eu cette impression-là, et je trouve qu'elle est capable, et c'est une des choses que j'admire rétrospectivement d'elle, c'est sa capacité à, pas exactement à faire ça en autocritique, mais à changer d'avis. Carrément de changer d'avis. Sur la Russie, bon, on l'a vu là, elle est, avant de partir en Russie, elle est pas pro-bolchevique, elle est anarchiste quand même, elle reste anarchiste, mais elle considère que le parti bolchevique, c'est vraiment la révolution russe. Et il a fallu 2 ans, tout un processus de mise en cause, mais elle est capable, et ça c'est juste l'exemple peut-être le plus flagrant, mais elle le montre maintes fois, à mon avis, elle est capable de voir, d'écouter, de raisonner et puis de changer. Et c'est une qualité rare,
c'était
franchement.
Tout au début aussi, le texte qu'elle était censée de dire dans ses conférences qui étaient écrites un peu par...
Oui,
les 3 conférences.
Exact.
Elle se remet en question, elle remet en question les propos par rapport à ce qu'elle voit, les gens qu'elle rencontre sur le chemin.
Et on voit dans d'autres discours aussi combien elle est capable de... Alors qu'elle a, il faut voir, son public, souvent c'était 10 000 personnes. Mais elle est capable d'établir un contact dans les deux sens, c'est-à-dire elle sent quand son public est en train de partir, et puis elle les ramène, parce qu'elle a vraiment, c'était une oratrice apparemment absolument extraordinaire, et elle raconte des histoires où il y a des soldats, c'est juste avant l'entrée en guerre, il y a des soldats dans le public qui sont en train de chahuter. Et elle réussit à retourner la situation en sa faveur. Des choses comme ça, bon, elle est vraiment une capacité d'écoute, d'observation et de réflexion. Et aussi, comme l'exemple que vous avez donné, oui, aussi, c'est un très bon
c'est
exemple.
C'est drôle quand même qu'elle accuse Lénine un peu la même chose.
Elle l'accuse de manipulation, c'est un peu différent.
Oui, mais ce que tu décris, c'est un peu manipulation.
Non, sauf les soldats, c'est vrai, elle les manipule. Parfaitement, parfaitement d'accord. Mais j'aurais fait pareil, plutôt que d'être lynchée. Mais les autres, le vieil homme, vous avez lu ce passage, le vieil homme qui lui fait se rendre compte qu'elle est à côté de la plaque, elle n'essaie pas de le manipuler. Elle se rend compte que c'était, oui, qu'elle était dans l'erreur.
D'ailleurs, ce vieil homme-là, en fait, c'est son sponsor. Est-ce qu'après, elle parle de nouveau de mentor ou de sponsor qui vont financer, en fait, tous ces voyages qu'elle
a... D'abord, les conférences étaient payantes.
Ah, bon.
Donc, elle a gagné de l'argent. On voit, il y a une affiche là, dans une des photos, oui. On voit, je ne sais pas, 4 dollars ou un truc comme ça.
Est-ce qu'elle parle de la structure à l'époque, de l'organisation de ce mouvement-là, qui se finançait, est-ce qu'elle en parle?
Comment les mouvements se finançaient, c'est ça? Ils étaient souvent structurés autour de journaux, par exemple des Freiheit, et c'était des journaux qui se vendaient. Bon, qui se vendaient... Et après, il y avait peut-être 20 personnes qui lisaient le même journal ou les lisaient à haute voix, etc. Mais quand même, ils étaient financés. Je ne sais pas si ça peut... Mais elle ne parle, au-delà de ça, elle ne parle pas de...
Pour savoir si dans toutes les pages, en filigrane, il y a quand même une présentation de comment ils étaient structurés, comment ils étaient organisés à cette époque-là.
Le mouvement anarchiste.
Il y avait une vraie bataille.
C'était informel.
Il y a des mécènes quand même qui apparaissent.
Oui, elle avait des mécènes. Mais le mouvement anarchiste, même Peggy Guggenheim, il a financé, elle, ses mécènes n'ont pas financé le mouvement anarchiste. S'il y a eu quelques anarchistes qui avaient beaucoup d'argent. Mais c'était pas... Elle ne parle pas effectivement trop de cette question précise que vous posez.
L'organisation en tant que parti, avec des guillemets, elle l'évoque pas de... sont criantes. Par contre, le rapport à l'argent, la nécessité de trouver de l'argent régulièrement...
Il n'y a pas de parti. C'est...
Non, non, mais c'est une partie, entre guillemets, justement, pour cette raison-là. En tant que... En plus, ça, il y avait tout un tas de courants différents sur avec lesquels ils n'arrêtaient pas de se friter, puisqu'ils étaient d'accord sur rien, pour le faire vite. Mais après, le rapport à l'argent et le besoin d'argent, c'est-à-dire qu'il peut passer du jour au lendemain à avoir beaucoup d'argent... Ou un amoureux qui lui offre des choses, des belles robes, et qu'elle accepte sans trop se poser de questions. Et le lendemain, se retrouver sans un rond, à devoir devenir cuisinière, s'inventer un métier d'infirmière. Voilà, donc l'argent est un problème en soi parce qu'il n'est plus un outil lui permettant de continuer, mais c'est pas...
Cette question de l'argent... on le voit dans le livre, elle en parle.
Oui,
oui, tout le temps.
Par rapport à elle-même, oui, tout à fait. Elle est partie à Vienne parce que de bonhomme l'ont financée pendant 2 ans.
Comme elle parle beaucoup des ouvriers, des prolétaires et tout, à quel endroit elle est avec eux concrètement, à quel endroit elle est en dehors en train finalement d'être à côté. Enfin voilà, c'est tout ça qui...
Ben, alors, on a vu qu'elle a commencé à travailler très jeune, à 13 ans. Après, quand elle a commencé à être une oratrice relativement connue, il y a eu des époques où elle travaillait, elle avait même créé un petit atelier de confection, mais sinon elle travaillait chez elle, fabriquait à la pièce. Ouais. Donc ça pendant longtemps. Après, quand elle était très connue, non. Non, elle était payée pour aller dans toutes ces villes, traverser les États-Unis. Elle avait un rythme complètement dingue, hein, des dizaines de conférences par mois. Enfin,
Et quand elle était en Russie soviétique, elle n'a pas travaillé ou elle a dû travailler?
Non. En tout cas, elle ne le dit pas d'après mes renseignements.
Enfin, elle a travaillé pour le musée.
Oui, mais je ne sais pas si. Est-ce qu'elle était payée?
Je ne sais pas.
D'abord, ils sont partis avec de l'argent jusqu'à ce que, grâce à Sacha, tout l'argent a été volé. Mais ils sont partis avec de l'argent que tout le monde avait contribué à leur donner avant qu'ils soient embarqués. Et puis, sans doute, par exemple, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ils étaient dans des hôtels pour étrangers. Donc, je suppose qu'ils ne payaient pas. Elle n'avait pas vraiment de travail salarié. Mais vous avez raison. Pendant plusieurs mois, ils ont sillonné le pays dans un train pour le musée de Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas s'ils ont été payés ou pas. Difficile de dire.
Elle n'en parle pas. Il y a un moment où elle est soignante aussi. Où elle est infirmière. Il y a un moment où elle est infirmière.
Oui.
Elle
aux États-Unis. Oui.
Oui, aux États-Unis. Oui. Non, mais c'était pour répondre aussi oui. sur les différents métiers. Oui. Et elle a l'idée de faire médecine et d'aller faire des études pour devenir médecin. Ça ne se fait pas.
Oui.
Après, à un moment, ils ont besoin d'argent pour la cause anarchiste. Ils ouvrent un magasin de glace. Des fois, on les voit travailler pour trouver de l'argent rapidement.
Oui, ben, les trois d'ailleurs, il y a, ouais. parce qu'il y a Sacha et puis son cousin, Fedia, ouais, qui font les trois, font la, ouais. le magasin de glace. Sur ceux arrive le crime de Carnegie, alors ils laissent tout tomber. Ils n'ont pas régulièrement du travail. Après, quand ils sont enfuis de la Russie, Sacha a travaillé, il faisait des traductions. Elle, non, je sais, elle vivait très mal, d'ailleurs. Je ne sais pas, je crois que c'était globalement, c'était une richissime américaine, Peggy Guggenheim, qui a acheté la maison à Saint-Tropez, où elle a écrit son autobiographie. Et je suppose qu'elle devait lui envoyer de l'argent aussi, parce qu'elle n'avait pas, tout simplement pas d'autres revenus. En tout cas, c'est vrai que ce livre se lit comme un roman, je crois que c'est toi qui l'as dit. C'est, contrairement à d'autres, elle a publié des essais, évidemment, explicitement politiques. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'elle connaît tellement de gens. Elle rencontre tellement de gens que des fois, nous, on faisait des fiches chaque chapitre. On listait tous les gens dans le chapitre, parce qu'on se perdait. Cinq chapitres après, on ne savait plus. Alors, il fallait... C'était la seule manière de faire. C'est extrêmement riche. Et on peut lire en épisode.
Je reviens à ma question. Et vous, il vous semble qu'il n'y a rien qui est ultra romancé? Vous pensez que tout est vrai?
Alors, il y a des omissions.
Des omissions?
Oui, il y a des gens dont elle ne parle pas.
Comme qui, par exemple?
C'était pour protéger leur. Pour les protéger à l'époque où elle a publié. De leur vivant. Et notamment, Fedia disparaît. On n'en parle plus. C'est parce qu'il est devenu un artiste reconnu. Mm-hmm. Voilà. Mais ce qu'elle dit, parce que j'ai traduit donc, le livre de son amant, Alexandre Bergman, sur les 14 années qu'il a passées en prison. Donc là, ça colle, ça s'entrecoupe. En fait, l'énorme chapitre sur la Russie, je crois que c'est 200 pages, peut-être plus, elle a piqué les notes de Bergman, apparemment, c'était une contentieux entre eux. L'un et l'autre étaient d'accord sur ce qui s'est passé. Je pense que globalement, on peut considérer que c'était vraiment comme ça. Et il y a eu, d'après ce que j'ai lu dans d'autres correspondances, etc., elle a eu beaucoup plus d'amants que ce qu'elle... Elle ne parle pas de tout le monde là-dedans. Mais c'était une femme, elle est pas très belle, mais elle devait, oui. Mais c'était aussi, elle voulait, elle le dit elle-même, elle voulait parler des gens qui étaient importants socialement ou qui étaient importants pour ce qu'ils pouvaient représenter. Par exemple, Ben Reitman. Ben Reitman, c'était un de ses derniers amants aux États-Unis. Et il a... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il lui a provoqué beaucoup de peine. Et je crois que c'est pour ça qu'elle en parle. Bref, elle parle des femmes, je sais par ailleurs, avec qui elle a eu des relations, mais elle ne souffle mot sur ces relations dans le livre. Ce sont des amis. En dehors de ça, je pense que oui, réellement, c'est... Je n'ai aucune raison de douter. Toi, tu...
Non, c'est... Mais je suis un peu obsessionnelle, mais c'est pas seulement sur les gens qu'elle rencontre ou qu'elle ne rencontre pas, mais t'as l'impression que toutes ces conférences se soldent par des succès, par des triomphes, par... T'es là au bout d'un moment, ok, meuf, waouh. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de, d'histoire tout en disant, bah, j'ai souffert, mais c'est quand même success story de, sur ce. Enfin, il y a un truc comme ça, je suis là. C'était si. Enfin, mais tu le dis toi-même, ouais, il y avait 10 000 personnes, c'est une espèce de. Ouais, d'oratrice comme ça. Enfin.
Bon, elle n'était pas rangée par l'humilité, on non, peut non, dire oui, ça.
À un moment, elle a un truc très rigolo, elle dit, je n'étais pas totalement bouffie d'orgueil. Tu dis, bah,
un petit peu.
Juste
ouais.
un peu.
Ouais.
Mais... Non, mais on s'est demandé aussi s'il y avait un enjeu politique à construire sa légende de son vivant. Ou...
Ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, parce qu'elle fait référence, c'est qu'elle était obligée d'aller, d'être plus que les hommes. Parce que sinon, tout simplement, dans ces milieux-là, on n'écoutait pas. Et ça ne peut être pas trop changé aujourd'hui. Très clairement, elle était obligée de faire un peu en permanence sa propre promotion pour paraître plus grand, peut-être qu'elle ne l'était. Mais en tout cas, ça a marché. Elle a été vraiment considérée comme, dans le milieu anarchiste, la plus grande oratrice, plus grande que Johann Most, qui était déjà passionné les foules, déjà. Mais c'est difficile à dire. C'est difficile à dire.
Ouais. Pourquoi ce volume, il ne contient pas ce qu'elle va faire en Espagne et puis à Londres?
Parce qu'elle l'a écrit avant.
Ouais, mais justement, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas complété?
Je ne sais pas. Pourquoi elle a arrêté à ce moment-là. Peut-être qu'elle avait besoin de recul, parce que c'était une période de défaite complète pour elle. Le monde anarchiste, là, enfin, évidemment, les socialistes et les communistes l'ont rejeté, pour sa critique de la Russie, mais aussi beaucoup d'anarchistes. Donc, ils étaient extrêmement, tous les deux, extrêmement isolés. Et Sacha était très malade, déjà. Donc, je pense que c'était la grosse déprime, et peut-être elle avait juste envie d'arrêter là. Et après, il y a eu la guerre d'Espagne. Et c'est ça qui l'a fait repartir, je pense.
Et pourquoi les anarches la rejetaient?
Oui, c'est moi aussi.
Non, parce qu'il y a beaucoup d'anarchistes quand même qui n'avaient pas compris ce qu'était le régime bolchevique.
Et donc, c'était quoi? À
l'étranger, ouais. Bien sûr, en Russie, il y avait, je pense qu'il n'y avait pas d'anarchistes qui soutenaient le régime bolchevique, mais je parle en dehors de la Russie.
Mais du coup, son récit de sa désillusion du bolchevisme est vécu comme une elle devient comme une traîtresse, quoi.
Ouais. Notamment quand elle s'est trouvée en Angleterre, oui. Ouais. Pas tous les anarchistes, mais oui, il y avait quand même. Et ça, si elle s'attendait aux socialistes et aux communistes, elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui tourne le dos dans le milieu anarchiste.
Là, on avait beaucoup entendu, et c'était bien, moi ça m'a beaucoup plu, tout son discours un peu politique et tout, enfin, mais est-ce qu'elle avait aussi un discours féministe? Est-ce que la pensée féministe, le combat féministe et tout, transparaît dans ce livre?
Oui, tout à fait, mais avec des... pas tout à fait le même féminisme qu'aujourd'hui.
Oui,
elle a, par exemple, à un moment donné, un discours où elle se moque des féministes bantins de la classe moyenne, la bourgeoisie, qui est assez rigolo. Elle y va loin. Oui, de plus en plus, elle a milité pour le droit, comment on dit ça,
contre les naissances,
à la contraception.
Oui,
le droit
de son corps, de maîtrise de son corps.
Elle était contre les
suffragettes.
Oui. Bon, d'abord, elle est anarchiste et donc les suffragettes, c'était pour l'État. Donc et puis elle considérait que le vote ne changerait rien au sort des femmes. Peut-être la plupart de ces discours qu'on pourrait qualifier des féministes sont par rapport à ces questions très concrètes. Contrôle des naissances, plus tard, elle n'a jamais vraiment parlé de l'avortement, mais elle a fait allusion. Ici, c'est à Union Square, New York. Et ce qu'on ne voit presque pas, il n'y a que des chapeaux d'hommes, hein, vous voyez bien. Mais sauf que là, il y a un tout petit peu des chapeaux de femmes. C'est quelques femmes, elles faisaient ça de plus en plus, qui distribuaient la littérature sur l'interruption de grossesse, sur le contrôle des naissances. Et bien sûr, les femmes, c'est là où elles allaient, parce que c'était très difficile à l'époque. Tout ça était illégal. C'est très difficile de trouver des informations.
Et pourquoi le journal s'appelle Mother House? Pourquoi Mother?
Je ne me souviens pas de toute l'histoire, mais en fait, ça, à l'origine, ça devait s'appeler, je crois, The Open Road, la route ouverte, et que ça avait déjà été prise.
Mais elle n'a pas une réflexion sur le, comment dire, cet imaginaire biologisant de la femme, la femme.
Oui, peut-être, oui. C'est possible.
C'est curieux.
Ouais.
C'est une expression.
Ah oui. Ça veut dire quoi?
Mais elle ne l'avait pas en cause.
La nature.
Terre-mère, ouais. Ouais. Oui, mais pourquoi elle a choisi ça, je ne sais pas, vous avez une idée?
Non,
c'est
une expression.
Ouais. Ouais.
Dans le livre, tu as un petit passage où elle en parle, et c'est à la suite toute simple d'une marche, je crois, dans la nature.
Du printemps.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qu'elle dit, en tout cas.
C'est curieux pour une féministe de se revendiquer un côté, comment dire...
Essentialiste, tu veux
dire? Oui, essentialiste.
Ouais. Mais ça, alors là, pour le coup, c'est comme... D'abord, il faut recontextualiser.
Ouais.
Parce que c'est très récent que l'essentialisme est pas par tout le monde et brocardé, on va dire, considéré comme antiféministe. Parce que pendant... Il y a beaucoup de mouvements féministes, y compris dans les années 70, qui sont essentialistes. Différentialistes, essentialistes. Déjà. Et alors, je pense que encore plus fin 19e, début 20e.
Oui, tout à fait.
Être mère est quand même le désir le plus primitif et le plus essentiel des femmes. Elle l'écrit noir sur blanc. Donc il y a tout un truc sur la maternité, tout en s'étant démerdée, elle, pour ne pas avoir d'enfant. Il y a plein de tensions assez amusantes. Hein,
Mais l'idée, c'est qu'une femme ne doit pas devenir un homme. Donc elle doit avoir aussi le droit d'être mère, d'avoir de la joie avec ses enfants. C'est un peu une sorte de philosophie de la joie qui prime toujours et qui, chez elle, justifie l'essentialisme relatif.
Mais en tout cas, je pense que tu as mis le doigt sur une chose très importante. Sur beaucoup de questions, il faut quand même se placer... Dans le contexte de l'époque, la réflexion à l'époque, l'idéologie aussi.
Enfin, mais encore aujourd'hui, je veux dire que les féministes sont complexes et des fois, il y a des luttes internes. Enfin, je
ne sais pas si
c'est interne.
Je trouve que le texte, il est très moderne parce que pendant que vous parliez, moi, je faisais des associations, même avec ce qui se passe maintenant, actuellement et tout. Je trouvais que ça n'a pas beaucoup changé, quoi.
C'est sûrement ce qu'elle dirait si elle était là. Oui.
Ça fait un siècle qu'on devrait avoir fait un bond phénoménal. Ouais. Et puis, au bout, quand même.
Oui, et aux États-Unis, pour l'instant, elle a échappé belle. Les médicaments, c'est encore peut-être pendant quelques semaines. Oui, ah oui. Des choses qu'on n'a jamais pensé possible qu'on mette en cause.
Et puis même le fait de criminaliser l'anarchie, c'est quelque chose qui est très contemporain. Quoi.
Ouais.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
Il y a beaucoup de choses à dire sur son féminisme.
Ça me donne envie de lire ce livre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.